savez, c'est l'expression que je préfère en français, même si c'est pas vraiment une expression d'ailleurs. Disons que c'est une locution. On l'emploie à tort et à travers. D'ailleurs, il faudrait pas la confondre avec par ailleurs, nous dit l'Académie, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Disons que par ailleurs, ça voudrait dire d'un autre côté, ce serait quelque chose qu'on ajoute comme ça en passant, mais qui nuance un peu votre propos. Il adore l'Angleterre, par ailleurs, il a vécu en Italie. Tandis que d'ailleurs, ce serait plutôt une information complémentaire, pas forcément indispensable, mais qui nourrit ce qu'on vient de dire. Il adore l'Angleterre, d'ailleurs, ça s'entend dans sa façon de parler. C'est ça que j'aime le plus, je crois, avec d'ailleurs. C'est cette idée d'un autre lieu, bien sûr, d'une ouverture, mais aussi d'une réflexion qui se poursuit. D'ailleurs, ça s'entend dans sa façon de parler. C'est la même idée, mais elle est augmentée par quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui la renforce. Un argument qui l'épaissit, un ajout qui la fait briller un peu plus. Et puis c'est un connecteur, d'ailleurs. Il y a un lien entre les deux informations, un lien logique, un lien évident. Il adore l'Angleterre, d'ailleurs, ça s'entend dans sa façon de parler. Il y a cette volonté de fabriquer un lien, ce qui est la définition de l'intelligence, d'ailleurs. Faire du lien, interlegere en latin. Ces deux petits mots, cette expression, cette locution d'ailleurs, ça nous ouvre, ça nous nourrit quelque part, ça nous élève.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui se nourrit d'ailleurs, il a vécu à l'étranger. Ses poèmes sont traduits dans le monde entier. Il a aussi contribué à la naissance du Printemps des Poètes, dirigé la collection Poésie chez Gallimard pendant près de 20 ans et mis en avant combien de poètes d'ici et d'ailleurs. Il y a 3 semaines, son recueil Séduire l'univers, précédé de A Contre-peur, composé pendant le confinement, remportait le prestigieux prix Apollinaire de Poésie, autant de lignes de fuite et de belles échappées. Bonjour André Velter.
Bonjour. Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous, cette idée d'ailleurs, cette locution aussi d'ailleurs, puisque vous êtes poète?
C'est un magnifique recueil d'Henri Michaud qui s'intitule Ailleurs, que j'ai toujours eu en perspective. Et cette idée que ma vie n'a toujours été faite que de départ, c'est toujours pour aller... D'ailleurs, c'est une très belle idée, parce que il y a ce côté de pas de côté dans le mot d'ailleurs plutôt que par ailleurs. D'ailleurs, je vais aller à tel endroit. Et c'est aussi quand on a le sentiment qu'on n'a pas tout dit et qu'il reste quelque chose à dire, et le d'ailleurs vous pousse à cela. Essayez d'aller là où on ne s'attend pas.
Encore faut-il le pouvoir, André Velter, je pense, à l'ailleurs impossible lorsqu'on est confiné, par exemple.
Oui, alors ça a été une expérience qu'il a bien fallu vivre, et plutôt que de se couvrir la tête de cendre et de pester, j'ai fait un peu comme Henri Michaud, encore lui, quand il s'était cassé le bras. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Bras cassé, et où il dit « Je me suis cassé le bras, c'est passionnant, qu'est-ce que ça me dit ?»
Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut s'échapper par la langue. Quelles échappées est-ce qu'elle permet ?
Il y avait s'échapper par la poésie, mais s'échapper aussi par la jubilation que l'on s'octroie jour après jour. C'est-à-dire ne pas se dire « c'est une catastrophe ». Et je vous assure que pour moi, ne pas bouger, me sédentariser pendant des mois et même presque 2 ans, c'était très pénible à imaginer. Et puis d'un seul coup... Je me suis dit, mais on a une force intérieure qui nous permet d'aller ailleurs.
Précisément, dans quelle mesure la poésie permet-elle de s'échapper?
Eh bien, là, c'était une expérience que je n'avais jamais tentée, écrire tous les jours mon état intérieur, disons ça comme ça. Et surtout avec cette idée d'être à contre-peur, de ne pas laisser la peur qui était en train... On avait l'impression d'être dans le nuage de Murnau, vous savez, la peste qui arrive sur la ville. Si vous aviez le malheur d'ouvrir une radio, de regarder une télévision, il fallait évidemment tousser dans son coude, respirer on ne sait où, et évidemment, on se sentait mal. Donc je me suis dit, je ne vais pas me laisser manger l'espace, manger ma respiration, manger mon souffle comme ça. Je vais essayer de sentir autre chose. Et en même temps... comme j'écrivais tous les jours un poème, en gros c'était ça, il y a eu des moments où j'avais quand même des bouffées d'angoisse comme d'autres sans doute, et j'en ai tenu compte. Ça n'est pas, il y a rien de mensonger dans le petit journal, puisque c'est un journal de bord d'une certaine façon. Hein. Pierre Reverdy disait le journal de mon bord. Ça a été le journal de mon bord pendant le mois et demi du premier confinement. Et avec, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait 2 alliés extraordinaires. La musique. Et le ciel.
Alors ça vaut pour vous, ça vaut pour les poètes, mais pour les poètes du monde entier. Il se trouve, André Velter, que du temps où vous dirigez la collection Poésie chez Gallimard, vous avez fait beaucoup pour les poètes étrangers dans des éditions bilingues. Faire exister la voix et la langue de poètes d'ailleurs, quel enjeu est-ce que c'était pour vous? Est-ce que c'est toujours d'ailleurs?
C'est l'idée que nous sommes dans une chambre d'écho. C'est-à-dire que quand j'entends la voix d'Adonis en arabe, je ne comprends pas l'arabe. Mais cette musique m'indique déjà quelque chose. Je suis déjà en... La poésie, c'est une alliance entre le son et le sens. Il faut jamais perdre la part du chant, la part de la musique. Et donc, je me laisse guider, et ensuite, la traduction est tout à fait nécessaire. Et cette idée aussi que des poètes qui viennent de très loin vont nous parler tout à coup de très près et vont influer sur notre propre scansion, sur notre propre souffle, sur notre propre tempo.
Et oui, vous avez voyagé dans le monde entier, en Chine, au Rajasthan, au Yémen, en Afghanistan ou encore au Tibet, j'en passe, vous avez rencontré des poètes partout. Au cours de ces voyages, qu'avez-vous compris de la poésie, de la constante de la poésie, André Velter?
Oh, je vais faire une réponse très orphique, c'est la permanence du chant. C'est-à-dire que la poésie, elle a cette capacité, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, à créer une communauté qui n'est pas une communauté humaine, qui est une communauté qui dépasse ça de très très loin. C'est presque une communauté, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de mental partagé.
J'ai envie de vous remercier pour cette réponse orphique, André. Ce goût du voyage, ce goût pour l'étranger, ce goût pour l'ailleurs, comment est-ce qu'il est né chez vous?
Oh, il est né de... Je vais encore refaire un peu de biographie. j'ai eu la chance de naître dans un petit village des Ardennes avec un père instituteur. Mais vous savez, l'Institut de Troisième République, quoi, ce genre d'homme qui n'existe plus.
Les meilleurs.
Ouais, absolument extraordinaire. Et mon père était à la fois directeur d'école dans le village, une petite classe de trois classes, et on vivait dans le village 6 mois par an, et 6 mois par an, on vivait dans un ancien pavillon de chasse à cour au bord de la forêt où mon père me dirigeait aussi une école de plein air. Ce qui fait que, très jeune, j'ai été un semi-nomade.
Oui.
On déménageait, mais on déménageait vraiment, hein, la grand-mère, le serin, tout. Et on allait dans la forêt, et où on restait 6 mois.
Et votre premier grand voyage, c'était vers quelle destination?
Mon premier grand voyage, c'était à 14 ans, quand je suis allé en Calabre. Et où pour la première fois, j'ai gravi l'Aspromonte.
Mais qu'est-ce que vous en avez rapporté, André Velter, de ce voyage?
Le fait que j'étais pas comme les autres, parce qu'il faisait une chaleur à mourir, il y avait une poussière épouvantable, et j'étais le seul à trouver ça formidable, alors que tous mes compagnons trouvaient que c'était absolument abominable de souffrir comme ça pour monter un... Enfin, quoi, l'Aspromonte, c'est 1800 mètres, hein, c'est pas l'Everest.
Alors c'est intéressant, parce qu'on entend que dans votre conception du voyage, il y a l'idée de prendre des risques.
Oui, et ça ne s'est pas arrangé après l'Aspromonte, puisque ça a été l'Afghanistan puis le Tibet. Donc oui, l'altitude, le fait d'être au-dessus de soi, quoi.
Mais prendre des risques aujourd'hui, ici, en France par exemple, dans une époque comme la nôtre, ça passerait par quoi, selon vous, André Velter?
Ça passerait par le fait d'être toujours digne de l'amour que l'on porte aux autres.
Ça peut se réaliser en poésie, alors?
Ça peut se réaliser en poésie, ça aide. Hein. La poésie est ce qui m'a octroyé les plus grandes affections, amitiés et amour de ma vie.
À quoi se risque le poète aujourd'hui?
À ne pas être digne de lui-même. À se payer de mots. À ne pas sans cesse avoir le sentiment que un mot peut changer sa destinée. Il y a des livres qui m'ont poussé au bout du monde. Quand j'ai lu Le chemin des nuages blancs du lama Nagarika Govinda, eh bien j'avais envie tout de suite de me retrouver au Tibet. Quand j'ai lu Équipé de Ségalène, je voulais enchaîner les sommets et l'école, parce qu'il y a 10 lignes dans Équipé de Ségalène, le regard par-dessus le col, et je l'ai tellement vécu que cette sorte de jubilation d'être quand on arrive au sommet d'un col et qu'on bascule dans l'espace et que l'espace là il redevient infini alors que pendant l'ascension on était contraint avec son souffle, avec les muscles, avec la dureté de l'ascension, et d'un seul coup, ça y est, on respire le ciel.
Et le poète se risque-t-il parfois à l'indifférence?
Ça m'est très difficile. J'ai malheureusement un tempérament. J'ai dit malheureusement parce que ça me permettrait d'être un peu plus à l'écart de certaines choses. L'état du monde aujourd'hui me mettrait plutôt dans un état de colère, et donc l'indifférence m'aiderait. Mais j'y arrive pas. J'ai trop de tempérament et trop d'énergie à dépenser. Il y a une chose une phrase magnifique du grand danseur Israël Galvan, que j'aime par-dessus tout, qui dit « L'énergie qui viendra un jour à me manquer, je la dépense.
Oh. » Vous savez qu'il y en a une qui ne nous est pas étrangère dans cette émission, vous la connaissez évidemment, André, c'est la culture et son actualité étrangement familière. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 8 décembre ? Et de 5 en exclu ce matin dans Boomerang, on peut vous révéler que le festival Rock en Seine s'apprête à annoncer d'ici une heure l'ajout d'une cinquième journée de festivité à sa programmation. Ce sera celle du 30 août 2022 pour accueillir notamment les papes du métal californien Rage Against the Machine. Festival toujours après 2 ans d'absence, Solid Ace se prépare à faire son grand retour en juin avec en tête d'affiche Aurel San, Damso, les Black Eyed Peas, Justice M ou encore Feu Chatterton. Ouverture de la billetterie dès mardi prochain. De 1000 feux, dès ce soir, la ville de Lyon rallume les ampoules de sa célèbre fête des Lumières. Pendant 4 soirs, la capitale des Gaules accueille installations, créations, projections réparties sur 27 sites différents. Mer écolo oblige, l'exaltation de la nature sera au cœur de l'événement. On pourra notamment admirer la fresque Vision, tout en faune et flore fantasmagorique sur la colline de Fourvière. Ou encore se laisser emporter par la vague géante de Sébastien Lefebvre sur la place Bellecour en
Icourt.
Et de sang, c'est aujourd'hui que sort en librairie le 100e tome de la saga One Piece, manga de légende créé en 1997 par le japonais Eiichiro Oda. La série qui raconte les aventures du turbulent Luffy et de son équipage de pirates est devenue en 25 ans un classique, vendu à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. Le lancement de ce nouvel opus, publié par Glénat, s'annonce comme le plus important du genre en France, avec un tirage de 250 000 exemplaires, autant qu'un prix Goncourt. Pour l'occasion, France Inter sort un nouveau podcast original, titré Yamanote, et propose ce soir une grande nuit manga de 21h à minuit. On dit oui.
Get your shoes on.
I want to dance.
Et enfin mercredi de l'avant, cinéma en avant, car aujourd'hui dans les salles, direction l'América, avec Steven Spielberg qui fait renaître la légende de Broadway et le classique du 7e art aux 10 Oscars, West Side Story, dont il offre une version moderne et éclatante, variation urbaine et sociale de Roméo et Juliette, grande pièce du sentiment d'appartenance à une communauté, à une nation. Le musical bénéficie cette fois d'une mise en scène en plan réel et d'un casting flamboyant qui met à l'honneur des artistes jeunes, portoricains et latinos, c'est frais, c'est grand, c'est beau. On y go. Et le poète André Velter, invité de Boomerang ce matin pour ce grand prix de poésie qui lui a été remis, le prix Apollinaire. Ce recueil, séduire l'univers sur fond de confinement et de pandémie, alors même que le monde entier fait face à une cinquième vague. Quel regard est-ce que vous portez sur cette étrange période qui dure depuis bientôt 2 ans, André ?
Qu'il faut ne rien céder. Évidemment, se protéger, se faire vacciner, etc. Mais ne jamais céder à cette sorte de morosité générale, de lassitude. C'est la lassitude qui est le pire. Je trouve que ce que je ressens autour de moi en ce moment, c'est ça. Ne pas céder à cela, rester soi-même et continuer à capter tout ce qui va nous rendre intact, tout ce qui va nous sauver d'une certaine manière. C'est pas que la poésie, c'est aussi une façon de regarder les choses et puis de sans cesse faire un pas de côté pour ne pas se laisser accabler.
Oui, mais là, soudain, je me demande, dans une période comme celle-ci, saturée par les informations liées à la pandémie, comment est-ce qu'on fait pour faire entendre autre chose, pour faire entendre une parole, justement, qui serait une parole du pas de côté, une parole du détour, une parole poétique?
Eh bien, retourner avec ses amis, pour ce qui me concerne en tout cas, musiciens, essayer d'inventer quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, ou ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller comme toujours là où je ne suis pas encore allé. Comme on m'a je ne vais plus au Népal, ça fait 2 ans que j'ai pas pu aller grimper les routes et les sommets que je voulais faire au Népal. J'ai quand même réussi à transmuer ça autrement.
Alors c'est ça, habiter poétiquement le monde, pour reprendre une expression
oui,
qui vous est chère.
Bah c'est celle de notre ami Hölderlin. Et oui, bien sûr, c'est une façon de... Moi, je crois vraiment l'idée que la vie étant ce qu'elle est, on ne doit jamais baisser les bras. On doit toujours garder intact ce qui fait notre singularité, ce qui nous... Alors, par exemple, des amis musiciens composent en ce moment mieux grâce à la pandémie parce qu'ils sont obligés, au lieu de courir les récitals ou les concerts, ils sont obligés de composer, et moi aussi d'une certaine manière.
Mais ce que vous nous dites aussi, et c'est fascinant, c'est qu'il peut y avoir de la poésie sans forcément passer par l'écriture.
Ah bah, bien sûr, j'ai eu la chance de vivre en Provence, et de chez moi, tous les matins, quand j'ouvre la fenêtre, je regarde le Ventoux. Il n'est jamais le même. Mais je vous assure, c'est une méditation minuscule, c'est une minute, deux minutes, trois minutes. Mais en ce moment, il est étincelant. Et ça me nourrit autant que le petit déjeuner qui suivra, je vous assure, largement.
Mais il faut encore se l'autoriser, ce Mont Ventoux. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile à déceler la poésie dans le monde qui nous entoure, un monde du tout de suite, un monde de la transparence, un monde où les gens se parlent derrière des masques, un monde où on se laisse happer par des écrans, plutôt que de regarder, précisément, ou même de se regarder.
Oui, et puis de prendre son temps, s'octroyer régulièrement le silence. Le fait d'être silencieux.
C'est un luxe.
Oui. Oui, le silence est un luxe. Et je vous assure que si je vais si souvent si haut, c'est que là-bas, on le trouve sans difficulté.
Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez poète, André Velter?
Je crois que je ne l'ai jamais compris et je me pose toujours la question pour savoir si je le suis vraiment. Non, ce n'est pas une blague. J'ai écrit très tôt, petit. Mais ce qui s'est passé... C'est grâce à un professeur de littérature, de français, qui s'appelait Monsieur Minot, j'aime bien citer les noms. J'avais 10-11 ans, et j'écrivais déjà en imitant La Fontaine, etc. Enfin, ce qu'on me faisait lire à l'époque. Et un jour, il m'a fait lire un poème de Baudelaire, Les Hiboux. Et pourquoi ce poème, auquel je n'ai certainement rien compris à l'époque, mais pourquoi il y a un avant et un après Les Hiboux? C'est parce que j'ai compris ce jour-là que la poésie, ça n'était pas un ornement. Ça n'était pas quelque chose qui faisait joli. C'était quelque chose qui impliquait votre être, qui impliquait ce que vous alliez devenir, votre propre destinée.
Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez recopié d'abord?
Je l'ai appris. J'étais d'abord stupéfait de ce... Je comprenais pas vraiment. Et en plus, j'ai passé ma vie à faire le contraire de ce que dit ce poème. Puisque la fin du poème des Hiboux, c'est « L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. » J'ai passé ma vie à changer de place. Donc, je l'avais sûrement compris à l'envers. Mais cette musique de Baudelaire, cette scansion, cette magie des mots... Oui, je me suis rendu compte que c'était autre chose que ce que je croyais, et donc peut-être que c'est à ce moment-là, je me suis pas dit tiens, je deviens poète, mais c'est sûrement à ce moment-là que la poésie m'a saisi.
Qu'est-ce qu'on trace au fond lorsqu'on trace un mot sur une feuille de papier, André Velter?
On fait au mieux un pas de plus vers l'inconnu, au pire un pas de moins. Faut faire très attention. Le mot, qu'on le sache, est un être vivant. Victor Hugo. Le mot est un être vivant. C'est pour ça que s'il y a une catastrophe aujourd'hui, c'est bien la déperdition du langage, la manière dont le misérable français est traité à peu près partout. Il suffit d'aller voir les enseignes dans les rues, de voir les publicités, etc. Il y a une sorte de broken English qui est en train de tout submerger. Et on ne se rend pas compte que c'est un meurtre. On tue les mots. Les mots, ce sont des êtres vivants.
Alors, faut faire attention.
Faut faire très attention. Et, par exemple, la mode des textos, J7 comme d'autres.
La mode des textos, André.
Oui, J7 comme d'autres, mais je rédige. Je n'utilise pas des mots réduits à leur squelette. Si j'ose dire, je fais encore des phrases.
C'est une petite résistance.
C'est une résistance. Oui, mais elle crée un lien, puisque vous parliez de ça au début, avec ceux qui vont le recevoir. C'est un respect qu'on se doit les uns aux autres. Faire attention à ce que l'on dit. Ça nous engage, indépendamment même de l'écriture, mais constamment. C'est pas soigner son langage. On sait très bien qu'il y a des grandes créations qui, au contraire, l'interrogent. Oui. Un grand poète comme Gerasim Luka n'a cessé de bousculer le langage. Mais il le faisait en dignité et en connaissance de cause.
On va reparler ensemble de tracés, de lettres, d'horizons, de mots, de mélodies, juste après ceux de Simon & Garfunkel sur l'album Sound of Silence en 1966. I am a rock. Vous êtes sur France Inter avec André Velter. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
A winter's day in a deep and dark December. From my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty. Friendship, friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Is me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries.
France Inter, Boomerang.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre le petit garçon et le grand sage, œil gavroche, sourire grand mône, chevelure vénérable, la passion et le souffle intact, toujours en couleur, me dit-il. Et c'est vrai qu'il a son blouson orange ce matin, le poète André Velter, invité de Boomerang pour ce recueil « Séduire l'univers » qui lui a valu cette année le très beau prix Apollinaire de poésie. C'est un recueil qui, à mon sens, permet de prendre de la hauteur vis-à-vis du présent. Comment on fait, tiens, pour prendre de la hauteur ?
On regarde le ciel.
Puis on grimpe aussi.
Et on grimpe quand on a le droit d'y aller.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez ?
Que l'effort peut se transformer en jubilation. C'est-à-dire, c'est un plaisir qui coûte au départ. Et quand on est assez bien entraîné, vous savez, en très haute altitude, il faut laisser au corps le temps de faire ses globules rouges. Au-dessus de 3000 mètres, il faut avoir ses 3 millions de globules en rab pour ne pas, pour avoir le souffle... correct, disons. Et puis chacun a le corps qu'il a, et il met plus ou moins de temps à faire ses 2 millions de globules. Et donc, tant qu'on n'a pas les 2 millions de globules, on souffre un peu quand même. Mais quand on les a, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans le corps. Et là, il y a cette sorte d'harmonie des muscles. Les tendons fonctionnent, les rotules sont absolument huilées, les épaules ne vous pèsent plus. Donc c'est ça, c'est cette transmutation de l'effort en jubilation.
Là, je pense tout de suite à l'un de vos poèmes qui figure dans cette vire l'univers et qui s'appelle Altitude. Est-ce que vous pouvez nous le lire ?
En remontant la pente, je chante à tout va, sans me soucier du combat entre le souffle et la voix. Si je vacille un peu, quelle joie que cette altitude qui passe et brûle en moi, amante souveraine. Surtout, ne pas ralentir le pas, ni consentir à revenir dans quelque jeu que ce soit. Par magie pure et force du destin, me voici complice de Juan Tsi à respirer l'éternité.
respirer l'éternité.
Il n'y a qu'un taoïste pour oser écrire ça.
Mais à quoi ressemble l'éternité ?
Sans doute à un grand espace bleu ou noir, parce que pour moi, l'énergie noire et les trous noirs ne sont pas synonymes de disparition triste. J'aime l'infini. Je vois pas pourquoi je m'en priverais.
Il y a cet amour des hauteurs, mais aussi cet amour pour celles et ceux qui risquent leur vie pour atteindre ces hauteurs. Il se trouve que l'un des amours de votre vie, Chantal Mauduit, était alpiniste, disparu il y a 23 ans sur les pentes du Dolagiri au Népal. Vous lui aviez d'ailleurs consacré trois livres magnifiques, Le Septième Sommet, L'Amour Extrême et Une Autre Altitude. Quelle femme est-ce qu'elle était ?
C'était un miracle. Elle était. On avait l'impression d'une exoplanète qui serait venue faire un séjour sur Terre, venant de très loin, une joie permanente, une manière de danser sa vie tout le temps. Et on l'appelait, vous savez, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça et qui a inventé cette expression, on l'appelait la fée des glaciers. Et au Népal, son surnom en népali, c'était Papillon. Et elle est morte à 34 ans, mais vous me demandiez tout à l'heure ce que c'était que l'éternité. C'est vivre comme ça jusqu'à 34 ans.
Ah, c'est bouleversant. Dans quelle mesure l'alpiniste est-il aussi un poète ?
Oh, Chantal m'a raconté des histoires sordides sur un certain nombre d'ascensions et le comportement de certains. J'étais très naïf là-dessus. Moi, je pensais que toute personne qui était allée un jour jusqu'à 8000 mètres ne pouvait être qu'une sorte d'elfe ou d'être parfait. J'ai dû un peu déchanter à travers ce qu'elle m'a raconté d'alpinistes jaloux qui se dénonçaient entre eux, enfin, etc. Elle, c'était pas du tout ça. Quand vous pensez qu'elle avait monté seule, le K2, donc le deuxième sommet du monde, c'était pas quelqu'un qui regardait les mesquineries du monde, elle était tout le temps largement au-delà de ça. Donc, j'ai toujours, pour moi en tout cas, cette sorte de certitude que quand je suis au-dessus de 4000 mètres, je suis mieux qu'en dessous. Et mieux, j'entends mieux en être, que mon être s'accroît, que je gagne quelque chose.
André Velter, on parle d'éternité. Est-ce que les mots rendent éternel ?
Non. Je pense que, même si je lis encore avec bonheur aujourd'hui ce que le regretté Homère a pu écrire, ça n'est encore qu'une éternité fort brève au regard du Big Bang. Je veux dire, on est quand même dans il y a des milliards d'années que quelque chose s'est passé. Et les hommes sur Terre, c'est finalement assez peu. Et je voudrais pas être trop pessimiste là, mais... ou trop lucide, mais le cours des choses laisse quand même entendre que ça va mal finir, quoi. Donc, ne nous attardons pas trop là-dessus, continuons à vivre ce que nous avons à vivre, et surtout, s'il y a un message que Chantal pouvait donner, vivons joyeusement.
Pour terminer cette émission, vous nous avez écrit un poème inédit, un poème que vous dédiez à trois alpinistes français disparus en novembre dernier au Népal. Ils s'appelaient Gabriel Miloche, Louis Pachou et Thomas Harfi. On vous écoute.
Entre 3000 et 8000 mètres, à chacun son étiage, sa zone d'euphorie, son cap de douleur, et le corps qui s'aime ou se renie. Mais c'est là que se révèle l'alchimie du vivre le plus haut, la magie incarnée d'un nombre d'or qui ne compte que sur ce rien qui nous veut unique. Je parle donc du haut pays à la première personne, en connaissance de chaos intime et d'extrême jubilation. Car ce champ est de précipices, d'éboulis, de repères indociles qui passent de lèvres en force avant d'improviser au plus suave des mélodies. Je dis Sanglitch, ou Saresang, je dis Manalit, Sekarmo, Darjeeling, je dis Rishikesh, Ralung, Lomangtang, Amada Blanc, et par quatre fois Manaslu, pour un alexandrin pareil au Vézelay de mon âme, qui ne s'en remet au miracle de cette terre Gorkha du côté de Samagaon, n'a jamais pris le chemin des nuages blancs, ni abordé aux rives du lac Birandra. C'est alors se tenir dans la lumière qui change l'altitude en destin, qui déplie l'espace tout soudain, où triomphe la voix surréelle d'un autre accès à l'inaccessible. Dévoilement qui appareille et s'impose comme une offrande par effraction, un surgissement extatique de sérac et de roc, une vérité pratique très au-dessus de la réalité. Il n'y a là aucun vacillement de vision, aucun recours aux projections imaginaires, seulement la certitude d'être irrémédiablement face au mont analogue, à l'heure exacte du rendez-vous.
L'heure exacte du rendez-vous, André Velter. Pour qui ce texte ?
Je l'ai écrit avec toujours évidemment l'idée de Chantal, avec aussi ce fait de... Vous avez cité les trois noms des alpinistes qui sont disparus dans cette région de la Madablanc que je connais bien. Et je trouve que c'est très important de dire les noms. Je ne les connaissais pas personnellement, mais il faut dire les noms. Parce que c'est ce qui les inscrit dans le grand Kadish de l'altitude, qui pour moi est peut-être la seule zone sacrée sur Terre.
Merci infiniment, André Velter, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre recueil « Séduire l'univers », précédé de « À contre-peur », prix Apollinaire 2021, est publié chez Gallimard. C'était une belle émission. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir? Qu'est-elle devenue, cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée d'or. Ajouter à nos êtres cette part du monde qui, au fond, nous avait échappé.
Émilie Loiseau, Le poids de l'existence, 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, L'instant M. Salut, chère Sonia.
Salut, cher Augustin. Et à demain.
À demain.